on fait petit à petit des choix. Et moi, plus je faisais du yoga et plus j'ai commencé à me dire, mais ok, j'ai envie d'avoir un impact positif sur mes cellules. J'ai envie d'avoir un impact positif sur mon entourage. Du coup, j'ai envie d'avoir un impact positif sur tout le vivant. Et est-ce que moi, j'ai dans mes choix du quotidien vraiment un impact positif ?
Bonjour, je suis Chantal Soutarçon. Bienvenue sur Beauty Toaster, le podcast Beauté et Bien-être. Au fait, c'est le dernier épisode de l'année. À partir de mercredi prochain, je rediffuserai les interviews les plus populaires de 2019. En attendant, aujourd'hui, j'accueille Lily Barbery, que j'avais déjà eu le plaisir d'interviewer il y a un peu plus d'un an. Devenue prof de yoga Kundalini, Lily revient cette année avec un nouveau livre qui cartonne, La Réconciliation. Elle y parle de son cheminement personnel, de l'impact de cette quête sur sa vie tout entière, et elle y donne la parole à des personnes hyper inspirantes. Allez, à vos écouteurs, c'est l'heure de Beauty Toaster. Bonjour Lily.
Salut.
Alors l'avant-propos de La Réconciliation commence par ces phrases. Ce livre n'est pas une méthode pour transformer sa vie, encore moins une liste de règles à suivre rigoureusement. Il ne s'agit que d'un aveu de vulnérabilité. Alors, ce n'est pas un livre de développement personnel, c'est vrai. Et pourtant, il fait écho chez pas mal de lecteurs et surtout de lectrices. Beaucoup y trouvent des réponses à leurs questionnements. Tu colles étonnamment à cette quête d'authenticité à laquelle pas mal de gens aspirent aujourd'hui. Comment tu l'expliques ?
Je crois que je me suis exprimée en fait à haute voix pour beaucoup. je crois que je suis juste un exemple d'une grande transformation qui est en train de se passer de manière plus globale et d'un changement de paradigme actuel qui est que ce qu'on nous a proposé, le système qu'on nous a proposé jusqu'ici et les croyances avec lesquelles on a grandi, à savoir que il faut avoir un travail qui rapporte beaucoup d'argent pour être heureux, qu'il faut travailler le plus possible pour gagner le plus possible d'argent, qu'il faut toujours en faire plus, qu'il faut dire oui, qu'il faut être tout le temps souriant. Tout ça, en fait, toutes ces croyances-là, c'est un système qui est en train de s'effondrer. Alors, il s'effondre à plein de niveaux. D'abord parce que, à force de travailler comme des dingues, ben, il y a de plus en plus de gens, en fait, qui tombent malades, soit avec des maladies qu'on peut identifier, soit avec des burn-out ou des soucis de dépression, en fait, assez longues. Et moi, je crois pas que je voulais pas que ce soit une liste de solutions parce que j'en ai pas de concrètes à apporter. Je voulais plutôt partager en fait le récit de mon parcours ces 3-4 dernières années pour montrer qu'il y a une autre voie qui est possible au-delà des croyances qu'on nous impose, au-delà des injonctions qu'on lance et qui sont souvent contradictoires et qui posent beaucoup de problèmes, en particulier aux femmes qui en plus d'assumer un travail lorsque c'est le cas, doivent aussi porter une charge mentale qui est phénoménale. Donc si en plus on leur dit qu'il faudrait faire tous les matins du yoga, de la méditation, moi je m'inscris pas là-dedans. Je dis juste qu'il y a des outils qui m'ont fait du bien, mais que pour pouvoir les appliquer, il y a beaucoup de choses que j'ai changées dans ma vie. Donc voilà, mais j'ai de leçons à donner à personne.
Et alors pour ceux qui ne l'auraient pas encore lu, dans ton livre, tu parles du chemin parcouru pour arriver à l'acceptation de soi, aussi bien physique que mentale, mais ce n'est pas arrivé du jour au lendemain. Est-ce que c'est une transformation qui est à la portée de tous ?
Écoute, moi je pense qu'on a chacun, on dispose chacun et chacune d'un grand pouvoir de transformation. Mais évidemment, tout dépend des résistances et de la situation dans laquelle on est. Et je crois que il y a des choses qui peuvent être améliorées au quotidien et qui peuvent rendre la vie un peu plus douce, même quand on est dans une situation extrêmement compliquée, socialement, de manière familiale aussi, enfin voilà, où même si les conditions ne sont pas réunies pour qu'on puisse changer de vie, il y a quand même énormément d'améliorations qui peuvent se faire. Simplement, elles vont être beaucoup plus faibles si on est convaincu qu'on ne peut rien transformer. Donc la croyance selon laquelle il y aurait des gens qui pourraient et d'autres qui ne pourraient pas, ça participe à l'idée que si on ne peut pas, pourquoi commencer ? Pourquoi ne serait-ce que essayer ? Ensuite, tu posais une question sur la question du temps. Il y a beaucoup de thérapeutes qui reçoivent pour la première fois un patient qui leur dit « Bon, moi, faut que ce soit court, votre machin, en 2-3 séances. » Bon, évidemment qu'on a tous envie d'une baguette magique et puis il y a des transformations qui sont très rapides et c'est pas démocratique malheureusement. Ça se calcule pas par rapport au nombre d'années passées sur un divan ou si on a fait beaucoup de sport quand on était enfant ou pas. Je veux dire, on peut avoir des éveils de conscience qui d'un seul coup, paf, du jour au lendemain, transforment notre vie. Et ça peut se passer à travers un voyage, à travers une marche, à travers même un événement dramatique comme une maladie grave ou le décès d'un proche. Où d'un seul coup, on voit la vie totalement différemment et on prend conscience des priorités et là, on se met à se transformer. Donc, il y a plein de facteurs qui ne sont pas démocratiques et qui ne sont pas liés aux conditions réunies idéalement. Mais moi, finalement, si on regarde les 3-4 dernières années que je raconte dans mon livre, on a l'impression que tout est allé très, très rapidement. Si on prend en revanche en compte le fait que j'ai commencé un travail thérapeutique à l'âge de 16 ans, que j'en ai 43 aujourd'hui, bah là, cette transformation, on dit que ça a été un peu plus long. En tout cas, il y a eu des phases avec des très longs paliers. Alors probablement que des thérapeutes type psychanalyste et autres diraient « mais c'est parce que ces paliers ont existé que vous avez pu récolter autant à la fin ». Moi, je suis pas certaine de ça. Je vois aujourd'hui des gens qui m'accompagnent dans les formations que j'entreprends et qui vont très très vite et qui pourtant n'ont pas ce travail sur soi qui a été fait. Donc, et moi, ce travail sur moi, évidemment qu'il m'a beaucoup apporté sur le plan intellectuel. Il a sans doute développé mon intelligence des relations humaines. En revanche, il ne m'a pas permis d'aller à l'encontre de mes symptômes ou en tout cas les comprendre, oui, voir leur fonctionnement, oui, mais m'en passer, c'était beaucoup plus compliqué. Donc oui, je crois qu'on a tous un pouvoir de transformation qui est immense et le fait d'en être convaincu déjà nous met dans une situation de changement et on va à son rythme. Il n'y a personne qui définit un rythme. Et puis si on regarde sur le plan spirituel, alors là, il y a plein de gens qui vont se dire « oui, mais moi, je ne crois pas du tout ça », mais si on pense à l'existence des âmes, l'âme, en fait, elle a l'éternité pour remplir sa mission. Donc, si c'est pas dans cette incarnation-là, dans cette vie-là, elle se chargera de nous le faire comprendre dans d'autres existences. Donc, je trouve que c'est intéressant de se dire, oui, mettons-nous en mouvement, même si c'est un tout petit mouvement, même si c'est un tout petit peu, il n'y a pas de pas microscopique, en fait. Chaque pas compte.
Et alors, j'ai trouvé que c'était un guide dans le sens où tu partages ton expérience et où tu livres également le point de vue de personnes que tu as croisées et qui t'ont aidé. Ce ne sont pas forcément des scientifiques, donc est-ce qu'il faut savoir faire parfois, enfin, prendre des chemins de traverse pour arriver à trouver sa propre vérité ?
Écoute, moi je crois que ces gens qui se sont retrouvés sur ma route ils se sont pas retrouvés là par hasard. Donc on dit sur le plan énergétique que on a la capacité d'aimanter à nous un peu comme si chacun d'entre nous on était des aimants. Et puis on vient comme ça attirer une personne qui nous ressemble ou dont on a absolument besoin pour évoluer. C'est pas forcément d'ailleurs toujours des grands maîtres spirituels. Ça peut être aussi par exemple un ennemi juré qui nous donne l'impression qu'il nous fait beaucoup de mal mais qui nous permet enfin de comprendre une boucle dans laquelle on était. Donc finalement les gens qui sur notre route nous font évoluer sont pas forcément ceux qui sont profs de yoga ou thérapeutes. Il y a une multitude de situations qui nous fait bouger. Mais je crois que, en tout cas, l'idée qu'il faudrait être scientifique pour pouvoir aider les autres, Non, ça me paraît assez, en tout cas, obsolète comme idée. Je crois qu'il y a plein de gens qui aident aujourd'hui, et même au cœur de la médecine, des soignants. On voit aujourd'hui un grand nombre de soignants, de soignants traditionnels, hein, j'entends des généralistes, des gynécologues, qui commencent à s'intéresser aux alternatives qui sont proposées. Des gens qui travaillent en cancérologie, en oncologie, qui commencent à travailler aussi avec des naturopathes. Et donc, c'est intéressant parce que le monde est en train de changer. En fait, si nous, on a tellement soif de changement dans nos vies individuelles, c'est quelque chose qui, globalement, se lie à tous les niveaux. Et je suis sur Instagram des gynécos et des médecins qui sont en train de faire entrer une dose, par exemple, de féminisme, mais aussi une dose de méditation pleine conscience dans leurs consultations, qui demandent, en fait, et proposent à leurs patients de regarder comment ils se nourrissent, et pas simplement pour leur dire manger des 5 fruits et légumes par jour, mais vraiment pour aller un peu plus dans les détails, et qui n'ont plus aucun mal à déléguer et à dire, en fait, aujourd'hui, moi, je vais pas vous donner des médicaments, mais je vais plutôt vous proposer une stratégie globale pour essayer de trouver l'origine de votre symptôme et surtout pour réussir à le traiter différemment, parce que si je vous donne juste des anti-inflammatoires, certes vous n'allez plus souffrir, mais le problème ne sera pas réglé.
Et d'ailleurs, il y a certains témoignages dans ton livre qui sont extrêmement forts. Je pense à celui d'Olivier Rollinger. C'est un survivant, hein, en plus d'être quelqu'un d'extrêmement clairvoyant. Enfin, moi, ça m'a scotché. Hein.
Ouais, c'est très troublant. Moi, cette rencontre, elle a changé ma vie. Et je pense à lui très régulièrement. D'ailleurs, voilà, je dis souvent ça. Je pense qu'il n'a pas conscience d'à quel point il a provoqué un bouleversement, en fait, en me racontant son histoire avec beaucoup de simplicité. En fait, moi, lorsque je l'ai rencontré, j'étais très malheureuse au moment où je l'ai rencontré. J'allais vraiment pas bien, mais je me sentais très coupable d'aller mal parce que finalement, il y avait pas d'éléments déclencheurs. Certes, j'avais eu une enfance un peu compliquée et j'avais encore des choses à régler par rapport à ma famille, mais j'avais un mari aimant, une petite fille qui allait bien, j'avais pas de problème de santé, donc je me sentais vraiment coupable, en fait, de me sentir aussi mal parce que je comprenais pas où était la raison. Et je crois qu'il y a une phrase qu'il prononce dans l'interview qui est « Réveille-toi, c'est l'heure de vivre ». Mais moi, je crois que vraiment, il a eu cet effet-là. C'est un homme qui, à l'âge de 20-21 ans, s'est retrouvé bêtement au mauvais endroit, dans une rue bretonne de Cancale, où il a été attaqué sauvagement par quelques garçons très jeunes, qui avaient entre 13 et 18 ans, et qui, sans raison, l'ont roué de coups, au point de le laisser pour mort sur le sol. Et il a mis plusieurs années à se remettre physiquement, en fait, de cette épreuve. Il en porte encore les séquelles 40 ans plus tard, et c'est un homme absolument extraordinaire qui a fait de ce grand drame sa chance. Et la manière qu'il avait d'expliquer ce qui lui était arrivé avec beaucoup de simplicité et pas du tout de plainte m'a bouleversée, parce que ça m'a renvoyée, en fait, je me suis d'un seul coup entendue me plaindre, moi, constamment, en fait. Donc je me disais, mais du coup, quel est le problème, en fait? Donc le problème, c'était pas de se dire, on va continuer à faire comme si de rien n'était, parce que ça, c'était un peu mon éducation, hein. Moi, j'avais une grand-mère qui disait toujours, il faut pas trop s'écouter, hein. Donc voilà. Donc j'aimais bien me plaindre, mais en même temps, je trouvais ça pénible. Donc l'idée, c'est pas d'étouffer la plainte et de passer à autre chose, c'est de se dire, il y a visiblement quelque chose qui ne va pas, mais allons-y, trouvons. Et moi, j'ai d'abord focalisé sur mon aspect physique parce que c'était ça qui me dérangeait le plus, mais au fond, le livre parle pas beaucoup, en fait, je pars de cette réconciliation avec mon corps physique pour ensuite me réconcilier avec quelque chose de beaucoup plus grand qui me dépassait totalement. Moi, je croyais en rien, en fait, et surtout pas en Dieu, et surtout pas dans l'existence des âmes, de la réincarnation. Tout ça me paraissait complètement frappadingue. J'avais appris à ne pas croire dans une famille où l'athéisme était extrêmement important. Donc aujourd'hui, je ne me suis pas tournée vers les religions pour autant, mais j'ai aujourd'hui une perception de ce qui m'entoure qui est complètement différente parce que je fais confiance en mes sensations, je fais confiance en ce que mon corps me dit, je fais confiance aussi dans ce que l'énergie en fait autour de moi et dans ce que je ressens me dit. Et donc ça, ça dépasse parce que ça rentre pas dans les cases de ce qu'on a appris à l'école, très rationnel, et voilà. Donc et pourtant c'est juste, on parlait de pouvoir de transformation, mais lorsqu'on commence à se brancher là-dedans, on déploie en fait un pouvoir mais incroyable pour nous-mêmes, et là la magie peut commencer.
Et alors évidemment tu parles de yoga Kundalini, on en avait déjà parlé dans l'interview précédente, c'est un peu le point de départ de ta transformation. Qu'est-ce qui rend le Kundalini aussi puissant par rapport à d'autres yogas?
Alors, tous les yogas ont dans leur racine l'idée de l'union, puisque c'est la signification du mot yoga, de l'idée de pouvoir ne faire plus qu'un d'abord avec toutes les parties de nous-mêmes, reconnaître les ombres, reconnaître notre lumière, mais aussi reconnaître les parties de nous qui sont peut-être moins agréables à regarder, à identifier, et puis surtout accepter que tout ce qui est fait partie de nous. Alors ça, c'est facile quand on nous appelle pour nous annoncer qu'on vient d'hériter une énorme somme d'argent. On peut bien accepter ce qui est. C'est plus difficile quand il nous arrive un drame, parce qu'on a toujours l'impression que c'est pas possible, on n'a pas pu aimanter ça à nous. C'est injuste, c'est les autres, c'est la malchance. Donc moi, je crois que tout ce qui nous arrive nous permet en fait de provoquer de grands éveils de conscience et d'accepter que en fait on est au-delà des méchants et des gentils, des gens qui se comportent bien et des gens qui se comportent pas bien. On est ensemble une humanité qui avançons, et chaque geste, chaque comportement que nous avons à titre individuel a un impact tous les jours. Donc j'ai perdu le fil de ta question.
Oui, mais donc qu'est-ce qui rend le Kundalini aussi puissant?
Ouais. Ben justement, en fait, ce qui permet de faire l'union en fait entre toutes les parties de soi, et de faire union entre la terre, le ciel, ce qu'on est, et cette idée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, ben les outils du Kundalini vont nous aider à le faire plutôt rapidement. Alors, est-ce que c'est bien que ce soit rapide ou pas? J'en sais rien. Ça dépend vraiment des individus. Je pense qu'il faut respecter son propre rythme. Je pense que le Kundalini Yoga est un outil parmi d'autres, et que je ne crois pas que ce soit le meilleur ou le plus fort. Je pense que juste il y a, voilà, cet outil-là, en tout cas moi, pour moi, il a été d'une efficacité redoutable, et que le travail que j'avais fait sur moi m'a permis de récolter avec cet outil énormément d'éveil de conscience et de, voilà, de prise de conscience, plutôt que le mot éveil, en tout cas où je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Alors, ce qui le rend particulier, c'est d'abord le fait que on utilise beaucoup de respiration intense, des respirations qui vont nous mobiliser la zone du ventre et en dessous du nombril. On va venir essayer de vraiment stimuler cette zone, puisque c'est là que se trouve une réserve d'énergie vitale qui est plutôt utilisée pour ce qu'on appelle les trois premiers chakras, donc pour notre sécurité, pour aussi notre sexualité, notre créativité, mais aussi pour notre volonté, notre détermination. Et là, en fait, on veut utiliser cette énergie pour la faire grimper le long de la colonne vertébrale et la mettre au service de notre conscience supérieure. Le projet est complètement différent, et donc ces respirations vont nous aider, évidemment. Il va y avoir une série de mouvements assez intenses qui ne sont pas des mouvements acrobatiques, c'est ouvert à tous. Il y a des personnes très âgées qui viennent dans les cours, il y a des personnes qui peuvent être en surpoids ou qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps qui peuvent venir dans les cours. Elles feront ce qu'elles peuvent dans le respect de leur corps aussi, mais ça demande pas, il y a quelques postures inversées, mais c'est surtout des chandelles Il n'y a pas vraiment de grandes difficultés, je dirais, acrobatiques. Et pourtant, c'est très intense physiquement. Par moments, ça peut ressembler à des exercices de gym, hein, en conscience, parce qu'il y a beaucoup de mouvements en haut, en bas, sur le côté. On se balance un peu comme un sablier. Il y a toujours quand même la structure du yoga, avec un alignement qui est sans arrêt. On essaie de retrouver sans arrêt cet alignement, de bien étirer sa colonne vertébrale. Et une fois qu'on a passé la série de mouvements physiques assez intenses, là, on peut rentrer dans un espace de méditation, donc un cours comporte toujours de la méditation.
D'accord.
Et ça peut être une méditation qui est silencieuse, qui est guidée par le prof, avec une respiration particulière ou pas, ou bien accompagnée d'un chant, le chant d'un mantra, donc dans une langue qui peut être l'anglais, c'est assez rare mais ça arrive. Ça peut être aussi en gurmukhi ou en sanskrit, donc des dialectes indiens, et ça va nous permettre en fait d'ancrer un message à l'intérieur de nos cellules, et ce sont des messages qui tournent toujours autour de la bienveillance, de l'amour de soi, parce qu'on est convaincu que si on arrive à s'aimer véritablement, totalement, même les parties qu'on n'aime pas trop regarder, eh bien, on va être capable d'aimer les autres beaucoup plus grand et d'ouvrir son cœur à recevoir tout ce qui est.
D'accord. Alors, tu as approfondi cette pratique et enseigné, forcément, c'était la suite logique. Sauf que toi, au départ, tu n'envisageais pas cette option. Alors, on a l'impression que ça s'est un peu imposé à toi, quoi.
Oui, j'avais pas du tout envie d'enseigner. Mais pour de mauvaises raisons, en fait. J'avais décidé que je ne voulais pas parce que je me disais, on va pas tous devenir prof de yoga. Donc, avant de commencer, je m'étais déjà dit, non, mais bon, tous ces gens qui changent de vie pour devenir naturopathe, prof de yoga, qu'est-ce qu'on va faire, là, tous ensemble, à juste proposer de manger des graines et... Donc, j'avais vraiment cette vision, mais qui était, qui est encore très partagée par ceux qui ont des résistances, en fait, à ces mouvements. Je me disais, on va pas tous être céramistes, quoi. C'est pas possible. Ou faire des coussins avec du capoc dès qu'on a une grossesse qui s'est pas bien passée. Enfin, je caricature, mais c'était les jugements en fait que j'avais à l'intérieur de moi. Ma motivation du départ, elle était très égoïste. Elle était, je dépense énormément d'argent dans les cours de yoga. Et pourtant, je ne trouve pas la motivation le matin de me lever et de me mettre à pratiquer. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire? Je ne savais pas quel kriya adopter. Je voulais être sûre que les postures que je faisais, c'était pas n'importe quoi. Donc, j'avais vraiment envie, en fait, de me dire comment est-ce que je pourrais évoluer par rapport à ça. Donc, j'ai entendu parler d'une formation que des profs que j'aimais beaucoup avaient déjà faite. J'y suis allée et vraiment... D'ailleurs, je demande à tout le monde, et toi, t'as envie d'être prof de yoga? Non. Ah ouais, toi non plus. Donc, on était quand même une grande majorité à ne pas vouloir l'enseigner. Bon, moi, je suis persuadée que ces formations, elles seront un jour proposées à tous, parce que c'est des lieux de déploiement du développement personnel, enfin, du développement du soi, où on vient vraiment à sa propre rencontre. Et ce qui est formidable, c'est que j'ai rencontré dans mon école de formation... Là, je rentre tout juste d'un nouveau training parce que ça se prolonge sans cesse. Je continue à me former sans cesse. J'étais avec un neurochirurgien, un médecin biologiste qui fait de la recherche en laboratoire. J'étais aussi j'ai rencontré cet été des gens très différents. Ça allait d'une personne qui fait le ménage, un chauffeur, de VTC, un architecte, un directeur de marketing. Mais il y a vraiment le nombre de personnes qu'on croit, c'est fou. Et ça, justement, moi, tu parlais tout à l'heure, tu disais oui, est-ce que tout le monde peut se transformer quand on gagne pas beaucoup d'argent? Est-ce que c'est possible quand on est dans une misère sociale? Est-ce que c'est possible? Alors, évidemment que c'est plus compliqué et c'est certain. Mais moi, j'ai rencontré des gens qui ont une motivation et qui se battent comme des fous en se disant mais non, mais moi, c'est ce que je veux. J'ai ce rêve-là et j'ai envie de sortir en fait de la prison dans laquelle je suis actuellement. Donc, j'ai eu des grandes, grandes leçons de vie. Bon, au fil de cette formation, il se trouve que j'ai eu de plus en plus de joie à pratiquer et puis qu'on m'a proposé un peu par hasard. D'abord, mes amis m'ont dit, à force de me voir en vacances pratiquer seule, elles ont commencé à me dire, est-ce que je peux faire avec toi? Donc, l'enseignement commence là. Hein. Ouais. C'est quand on commence à dire, bah, tu vois, tu mets tes bras de cette manière et puis tu serres les fesses, tu fais ci, tu fais ça. Ça y est, c'est déjà de l'enseignement et de la transmission. J'avais aussi l'impression d'être déjà dans la transmission à travers ce que j'écrivais sur mon blog. Mais là, j'ai deux amies new-yorkaises qui sont profs de yoga, qui cherchaient un cours de Kundalini Yoga à Paris et qui ne trouvaient pas parce que toutes les profs que je connaissais, moi, étaient en retraite la semaine où elles étaient à Paris de passage. Et bah, c'est tout bête, je m'y suis mise comme ça et ça a super bien marché parce que en leur donnant le cours, j'ai eu l'impression que j'avais autant de joie que si je venais de tomber amoureuse. Je suis sortie de là, je me disais c'était génial, j'ai adoré. Et puis ben, ça ne m'a plus quittée en fait, cette joie-là. Donc après, il fallait aller au travers de mes résistances et de regarder qui je jugeais exactement quand je disais que tout le monde allait devenir naturopathe ou prof de yoga. Et je crois que ça, c'était le jugement de moi-même. Où je ne m'autorisais pas à faire ce qui me donnait vraiment de la joie. Après, le jour où il y aura trop de profs de yoga, si ça arrive un jour, mais quand je vois tout le monde qu'il y a dans le métro, je me dis que
on
a encore de la marge. Et vu le nombre de personnes qui veulent venir à mes cours, je me dis que voilà, il y a encore de la marge pour que des profs puissent se former et développer leur clientèle. Eh bien, je ferai autre chose, tout simplement. Voilà. Il y aura, de toute façon, maintenant, je me pose plus du tout de questions par rapport à ce que je ferai demain parce que la vie m'a tellement surprise ces dernières années. Si on m'avait dit, il y a 4 ans, tu sais quoi, tu vas quitter ton métier job. De journaliste, tu vas quitter le journal Le Monde, tu vas démissionner. Et puis, tu vas monter une boîte, tu vas te mettre à fond sur ton blog et tu vas finir par devenir prof de yoga. J'aurais dit, alors, je crois que si tu pensais avoir des dons de voyante, ça n'est pas le cas. C'est vraiment n'importe
Change
quoi.
Change de métier.
Change de métier. je n'aurais pas pu y croire une seule seconde. J'étais l'inverse de ça. Je n'allais même pas faire du yoga il y a 4 ans. Je trouvais ça génial que les gens en fassent, mais je voyais pas en quoi ça me concernait. Donc, moi, il y a 4 ans, j'étais surtout préoccupée là, tout de suite, maintenant, par la sensation que j'avais post-attentat, où j'avais l'impression que tout le monde allait crever à chaque seconde. Donc, j'étais vraiment pas du tout là-dedans. Ouais, donc, je sais pas, dans 4 ans, on se revoit, on refait un podcast. Ouais. À mon avis, toi comme moi, on aura beaucoup bougé.
Peut-être même que je n'aurai plus de podcast, je ne sais pas.
Tu auras une chaîne de télévision, on n'en sait rien. Si la télé existe encore.
Si la télé existe encore, effectivement. Alors, il semble que non seulement ta vision sur toi ait changé, mais également ta vision sur le monde. Ta conscience écologique semble s'être réveillée. Comment tu expliques cela ?
Oui, alors je dirais que je parlerais plutôt d'éveil que de réveil, parce que j'étais vraiment à un stade zéro de la conscience de la planète et de l'écologie autour de moi. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'ai pas vraiment été sensibilisée à ça par ma famille, et ensuite je suis urbaine, j'avais finalement très peu de moments en contact avec les éléments et la nature autour de moi, même si j'ai toujours été touchée par la beauté de la nature, mais je ne voyais pas comment on allait pouvoir changer les choses sans l'intervention de décisions politiques fortes. Et donc, je me reposais beaucoup là-dessus. Et puis, j'avais une certaine forme de naïveté aussi, en me disant que c'était pas possible, en fait, qu'on nous mette pas à l'abri de dangers, en fait, s'ils existaient, s'ils étaient prouvés. Vraiment.
Tu pensais qu'on était protégés par les.
Oui,
les grands,
j'avais une vision assez. Assez infantile en fait des hommes qui et des femmes qui nous dirigent. Bon, alors j'ai complètement revu ça à partir du moment où déjà j'ai eu un enfant, donc ma fille a 12 ans, et au moment où j'ai commencé la diversification alimentaire. Et je me souviens très bien que le pédiatre, qui était pas du tout, qui avait pas une vision écologique engagée du tout, mais que j'aimais beaucoup et en qui j'avais confiance, m'avait demandé d'acheter des légumes bio.
Ah ouais.
Et je me souviens que bah moi je crois que jusque-là, j'étais jamais entrée dans une boutique dans un magasin bio, ou alors c'était très rare et puis je trouvais tout tellement cher. Par contre, j'étais pas du tout choquée par le fait de m'acheter des chaussures hyper chères, mais mais je voyais pas comment c'était. Enfin, pour moi, le budget, j'avais toujours grandi dans l'idée que on faisait attention à son budget et que les courses, on n'achetait pas n'importe quoi, qu'on regardait les prix, tout ça. J'ai été éduquée, voilà, par une mère qui m'a élevée avec mon frère en faisant très attention et qui achetait les promos et en grande majorité. Et donc moi, j'avais quand même gardé une partie de cette culture et je voyais pas pourquoi une carotte bio elle serait plus chère qu'une carotte classique. Puis quand j'ai commencé à m'intéresser à la raison pour laquelle ce pédiatre nous avait demandé de faire cet effort, et que je préparais des légumes bio pour ma fille, et puis que je continuais à acheter des légumes classiques pour nous, je me suis dit, mais il y a quand même un problème, quoi. Pourquoi est-ce que elle mériterait une alimentation qui soit raisonnée et vertueuse, et pourquoi nous, on continuerait à aller s'empoisonner avec des pesticides? Donc bon, j'ai commencé à progresser, mais je buvais encore des tonnes de bouteilles d'eau minérale en plastique, parce que là aussi, encore une fois, je me disais bah non, mais l'eau minérale elle est meilleure pour la santé que l'eau du robinet, donc tant pis pour les océans et les bouteilles en plastique, je choisis d'abord ma gueule plutôt que les océans. Bon. Aujourd'hui, j'ai fait un choix très différent parce que je crois que dans l'équation, je ne suis pas sûre, même en voulant choisir ce qu'il y a de mieux pour moi, que de continuer à polluer en amassant des tonnes de bouteilles en plastique qui ne sont pas recyclées. C'est-à-dire que y a toujours cette notion de si c'est recyclable, tout va bien. Mais on ne sait plus quoi faire de nos déchets. On ne sait plus quoi en faire. Donc oui, il y a une toute petite partie des bouteilles en plastique qui sont recyclées, mais elle est infime.
Elle est infime, ouais, c'est vrai.
Et on ne sait plus quoi faire de ces déchets, si bien qu'on les envoie à l'autre bout du monde comme si ce n'était pas la même planète, comme si on faisait pas partie du même pays. Et puis, ben, la Malaisie, la Chine, elles en ont ras-le-bol.
Ils
en veulent plus de tous
nos déchets,
etc. Donc, quand on commence à prendre conscience de ça, on se dit, bon, alors, est-ce que c'est si grave que je prenne de l'eau du robinet et que j'arrête finalement, on vit aussi dans un pays où on a la chance d'avoir accès à une eau qui est potable. On a tendance à l'oublier. Il y a plein de pays, c'est pas le cas. Notre eau, certes, elle a un goût de chlore, mais on peut mettre un truc de charbon noir à l'intérieur, ça absorbe au moins le goût du chlore. Bon, ça absorbe pas beaucoup d'autres choses non plus, c'est-à-dire qu'il faut pas non plus s'imaginer que dans le bâton de charbon, on va tout régler. Mais c'est mieux que rien. Puis après, il y a plein d'autres solutions pour filtrer son eau qui sont assez onéreuses, mais qui, à mon avis, vont pas l'être autant que ça dans les années qui vont venir, parce que l'eau va devenir un sujet vraiment important.
Oui, c'est clair.
Voilà, je crois que on fait petit à petit des choix, et moi, plus je faisais du yoga et plus j'ai commencé à me dire, mais ok, j'ai envie d'avoir un impact positif sur mes cellules, j'ai envie d'avoir un impact positif sur mon entourage, du coup j'ai envie d'avoir un impact positif sur tout le vivant, et est-ce que moi j'ai dans mes choix du quotidien vraiment un impact positif? Donc j'ai commencé à regarder tout ce que je pouvais changer. Mais il y avait plein de choses qui étaient très difficiles pour moi parce que je m'étais construit une pensée qui était « je ne peux pas faire autrement que comme ça ». En fait, on s'habitue très vite. On voit bien d'ailleurs que depuis qu'il n'y a plus de sacs en plastique qui sont proposés, on s'est tous organisés.
Bien sûr.
On a tous pris l'habitude de prendre les mêmes sacs pour aller faire nos courses. On sait qu'on ne part pas faire nos courses sans sac. On a tous un tote bag en coton maintenant dans nos affaires. C'est pas compliqué de penser toujours à avoir sa gourde avec soi. En fait, il suffit de le faire régulièrement, de le montrer à ses enfants, et puis tout le monde prend le pli. Donc c'est ces tout petits gestes qui, tous les jours, peuvent changer la donne. De se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de prendre ma voiture, seule dans ma voiture, pour aller à un point où finalement je peux y aller en métro ou en transport en commun ? Mais évidemment, je ne suis pas en train de culpabiliser les gens qui n'ont pas le choix que de prendre leur voiture, qui habitent loin, lieux où il n'y a pas de transport en commun. Mais quand c'est possible de faire autrement, en tout cas à Paris, c'est le cas, je crois qu'on pourrait tous faire de très grands efforts. C'est possible, on a plein de moyens alternatifs pour se déplacer et qui sont beaucoup plus rapides que la voiture. Donc quand j'entends des automobilistes qui sur les réseaux sociaux, sur Twitter et ailleurs, enfin voilà, pointent du doigt la maire de Paris ou en disant que vraiment Paris c'est plus possible, mais qui sont seuls dans leur voiture à se plaindre, s'ils peuvent faire autrement, je dis pas que tous sont responsables de ça, mais je suis certaine qu'il y a un grand nombre de voitures qui pourraient ne pas circuler dans la journée à Paris. Tout le monde n'a pas besoin de prendre sa voiture pour se déplacer. Et on a quand même un... Alors oui, ça sent pas toujours bon dans le métro. Oui, c'est blindé de monde. Mais c'est pas cher, c'est rapide. On circule à 40 km/h j'ai envie de prendre dans les bras la personne que j'étais il y a encore si peu de temps, qui se plaignait en disant « Moi, le métro, moi, je peux pas, le métro, ça pue, les gens sont odieux,
désagréables. »
Mais qui était désagréable ? Moi aussi, j'étais désagréable. Donc, on peut tous y mettre du sien. Aujourd'hui, j'ai remarqué, plutôt que de remarquer les gens qui me bousculaient, j'ai remarqué plusieurs très jeunes garçons qui m'ont tenu la porte du portique. Voilà, quand j'ai mis mon ticket, des gens qui se sont entraînés, des gens qui se sont levés. Oui, il y a aussi ça dans le métro. Ça dépend ce qu'on a envie de regarder.
Voilà. Et alors, comment tes proches, je pense à ton mari, à ta fille, vivent-ils cette transformation ?
Plutôt positivement, parce qu'ils ont remarqué les bénéfices, à savoir que de manière générale, je suis quand même beaucoup plus calme qu'avant. Je m'énerve moins facilement et après, je m'énerve toujours.
Rassure-nous.
Oui,
tu es
normale.
Je
m'énerve toujours mais je reviens plus vite à mon centre. Et puis surtout, maintenant qu'ils sont habitués à ce que j'ai plus de calme, quand j'en manque, ils sont très étonnés et ils me regardent vraiment d'un air de dire. Qu'est-ce qui se passe ? Donc non, il y a toujours des situations qui peuvent me faire réagir, évidemment. Mais l'outil que j'ai, ça n'enlève pas les réactions. Ça me permet juste de m'observer quand je suis en train de réagir et quand je suis en train de m'agiter comme un enfant de 5 ans qui veut qu'on l'aime. Et de prendre de la distance et me dire « Non, mais là, il y a une autre partie de moi. » qui est beaucoup plus sereine et qui est capable de regarder tout ça comme un film qui serait projeté sur un mur, sur un écran, et qui peut rigoler un peu de la situation plutôt que de partir en vrille.
Et aujourd'hui, tu vis et tu fais partager tes passions, les cours de yoga, des retraites aussi. Tu penses que tu as trouvé, t'as l'impression d'avoir trouvé ta place ?
Oh ouais, j'ai l'impression de vivre un rêve, parce que quand le lundi commence... Je suis pas du tout angoissée. Je me dis c'est génial. Je sais jamais quel jour on est. Alors qu'avant, je savais très bien quand il me restait plus que 2 jours avant le vendredi soir.
Je pense que c'est le cas de beaucoup de personnes encore.
Et en fait, toute cette idée qu'on véhicule avec oh là là, c'est horrible lundi et puis ce sera mieux vendredi et vivement les grandes vacances, et de sans arrêt avancer avec une carotte, ça nous empêche d'être dans le moment pleinement présent, là tout de suite, de se dire que finalement, là, ici et maintenant, c'est pas si mal, et que il y a de grandes joies aussi, alors pas dans tous les boulots, mais il y en a dans certains boulots, et que si vraiment c'est l'enfer ce qu'on vit, peut-être qu'il va falloir qu'on développe en dehors du travail des choses qui puissent nous permettre vraiment de retrouver cette joie qui est essentielle en fait à la vie. On peut pas avancer juste en étant tout le temps déprimé et en se disant ça ira mieux quand je serai en vacances. J'ai écouté et j'ai oublié son nom, mais j'ai écouté un chercheur qui racontait que quand on se dit comme ça qu'on travaille comme un fou furieux, comme un hamster dans sa roue, puis qu'on se reposera le week-end ou qu'on se reposera pendant les vacances, c'est un peu comme si je te disais alors je vais pas dormir, mais je vais pas dormir pendant voilà à peu près 3 mois, et dans 3 mois je vais dormir une semaine pleine, tu verras, ça va être super. Ben non, en fait on n'est pas fait pour vivre comme ça. Donc je crois qu'il faut juste qu'on revoie un petit peu nos rythmes et de mettre peut-être plus de limites, tout en se disant que le travail, ça peut être aussi une source de joie.
Tout à fait. En tout cas, pour toi, visiblement, ça l'est.
Ouais, ça l'est.
Et À la fin de ton livre, tu laisses quand même penser que tu as encore du chemin à parcourir. C'est la quête d'une vie.
Alors, tout ce qui consisterait à faire croire, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, qu'il y a un moment une ligne d'arrivée, avec une médaille à choper et un podium, partez en courant. Enfin, vraiment, là, vous êtes face à des, à des gens qui sont malhonnêtes. On cherche toute sa vie, je crois. On avance, on chemine, ça s'arrête pas. Il n'y a pas cette idée qu'il y aurait des êtres très éveillés et d'autres non. Je crois que c'est une illusion. Il y a un moment, en fait, une ouverture du cœur qui est possible. Et puis pour d'autres, c'est pas le bon moment. Et il faut respecter ça. On n'a pas à vouloir accélérer le chemin des autres. Déjà, on se contente du sien. C'est déjà pas mal.
C'est déjà bien.
Mais moi, oui, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et à parcourir. Ouh là là.
Et alors, question subsidiaire, les cheveux de Lily. Car moi, j'ai connu Lily avec des cheveux raides. Et je ne sais plus si c'était l'année dernière, il y a quelques mois, un jour, elle s'est réveillée avec les cheveux ondulés.
Non, mais c'est fou.
C'est un truc de malade.
Je ne m'en remets pas. Non, mais je ne m'en remets pas. Et tu sais, des fois, je suis devant un miroir ou dans la rue et je vois les boucles et je me dis, oh, c'est dingue. Alors, c'est un mystère.
C'était,
alors,
il c'était paraît, un rêve
Écoute, je ne sais pas si c'était un rêve, mais en tout cas, je suis très contente des cheveux que j'ai aujourd'hui. Non, c'est assez surprenant. Les explications, je ne les ai pas. Il y a des coiffeurs qui m'ont dit qu'on changeait de cycle de cheveux tous les 7 ans.
Oui, c'est ce qu'on
m'a
dit aussi.
C'est faux. Moi, j'ai toujours eu des cheveux de merde jusqu'à très récemment. J'avais pas du tout, tu vois. Je crois vraiment que ils ont pas changé vraiment de texture, etc. pendant des années. Et même, ils avaient plutôt tendance à... J'ai eu vraiment des phases assez difficiles où j'ai perdu beaucoup de cheveux. Bon, j'ai pas fait de pelade, mais j'avais vraiment des moments avec le cheveu qui était vraiment affaibli et qui montrait bien que j'avais un régime alimentaire qui était pas au top. Parce que ça, quand même, on voit 3 mois plus tard, il y a des chutes de cheveux. Quand on a fait trop d'excès, on s'en rend compte. Alors, évidemment, je mange plus sainement qu'avant, donc j'imagine que ça a aidé mes cheveux. Je crois que le yoga au quotidien aussi beaucoup, parce que évidemment, le yoga, ça agit sur les hormones, donc forcément, il doit y avoir quand même des effets hormonaux sur cette pousse et la façon dont ils sont aujourd'hui. Après, sur les boucles, honnêtement, ça reste un mystère. C'est un mystère. J'espère qu'elles vont rester.
Parce que quelques mois que ça dure, voilà, je pense que c'est bien parti.
J'espère que j'en ai au moins pour 7 ans. Ouais, pas comme un miroir qui se casse.
C'est ce qu'on te souhaite.
Je trouve ça très agréable. Et non, je ne sais pas. Mais je pense qu'en fait, parce que je m'en suis aperçue en janvier dernier, donc il y a quelques mois, bientôt un an. Mais à mon avis... ça date d'avant, sauf que avant cette période, je me séchais les cheveux. Et quand on se sèche les cheveux, j'ai pas des boucles qui sont non plus, j'ai pas les cheveux crépus, c'est juste une légère vague naturelle. Ouais. Je pense que le fait de les sécher, les tendait, les raidissait en fait, et les rendait un peu mousseux. D'ailleurs, j'avais du mal à les coiffer. Alors que, en fait, il a suffi juste que je comprenne que j'avais rien à faire.
Voilà.
Et je ne fais plus rien. Alors, ça ne va pas faire de la pub pour les produits coiffants, mais c'est quand même génial. J'ai passé 15 ans à tester tous les produits qui donnent du volume, à mettre des produits avec du sel, à les texturiser, à acheter des sèche-cheveux très chers, à des brosses particulières avec de l'électricité électrostatique. Résultat, je ne fais plus rien. Et je me lève, on a l'impression que j'ai mis un fer à boucler dedans. Donc,
un truc de fou.
Ça quand même génial.
Ah ouais, c'est...
Donc peut-être d'essayer de ne rien faire.
La nature est bien faite. Finalement. Merci Lily.
Merci.
Merci de nous avoir écoutés tout au long de l'année. À partir de mercredi prochain, donc, place aux rediffusions. Continuez à écouter Beauty Toaster sur toutes vos plateformes de podcast préférées, mais également sur beautytoaster.fr. Et soutenez-nous avec un commentaire et une note sur Apple Podcast. C'est vraiment important. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année et je vous donne rendez-vous pour un nouvel épisode mercredi 8 janvier 2020 à 7h.